vous l'avais promis, c'est ma chronique IA. Voilà, en fait, on a arrêté de spécifier, mais
les gens adorent,
dans le YouTube. Voilà, dans le planning, en fait, j'ai mis à chaque émission ma chronique IA. Voilà. Si vraiment un jour il y a plus rien à dire, je m'arrêterai, mais ce jour-là, il n'est pas arrivé. Exactement. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me frustre un peu, malgré toute la hype autour de l'IA, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait un Jarvis plus tôt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans Iron Man, le mirage d'avoir cet assistant qui sait tout, qui est là constamment avec toi et qui fait que tu passes 10 fois moins de temps à faire des trucs chiants dans ta vie, je pensais qu'il allait arriver plus vite.
Ouais, okay. On est quand même dans la voie.
Ouais, mais non, mais on est un an et demi après.
On patine un peu, quoi.
Exactement. On est un an et demi après GPT-4, à peu près.
Ouais.
Je pensais que il y a un an, il y a 6 mois, ou là maintenant, on aurait un assistant de ce niveau-là qui aurait remplacé soit nos smartphones, ou au moins nous accompagnerait à peu près tout le temps dans notre vie pour toutes les tâches un peu ingrates, réserver des trucs à droite, à gauche, parler, gérer nos conversations, nous faire des plannings, gérer le calendrier, j'en sais rien, mais qu'on est tous l'équivalent d'un assistant constamment pour nous, quoi. Or, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Actuellement, on en est même encore relativement loin, même si, quand même, ça se rapproche un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui manque pour qu'on ait un Jarvis? Et la première chose que je veux vous montrer, c'est une annonce très récente qui a été faite lors du CES d'une entreprise qui s'appelle Rabbit, qui a sorti un appareil qui s'appelle le R1. Je vous propose qu'on regarde le trailer. C'est une toute petite boîte, orange comme ça. Alors ils font les trucs à l'Apple où on voit rien dès le début. Voilà. C'est une petite boîte toute mignonne avec une sorte de petit lapin. Pas de bouton, pas de. Voilà, ce n'est pas un appareil complexe à utiliser, visiblement. On peut entreapercevoir des microphones ici, une caméra qui peut se retourner dans les deux sens, et une sorte de bouton qui semble être l'unique moyen d'interagir avec l'appareil. Et pour cause, il semblerait que ce soit designé pour être le futur Jarvis. C'est la plateforme qu'ils annoncent actuellement et qu'ils espèrent petit à petit vouloir transformer en assistant ultime qui pourra tout faire pour nous. Je trouve justement, on va rentrer dans le détail et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là, mais je trouve qu'ils ont une approche très intéressante parce qu'elle est réaliste. Ils promettent pas la lune. A priori, on va pouvoir mettre la main sur ces appareils pour de vrai. Ça va pas cracher dans un mois et on va pouvoir vraiment faire des trucs avec dans peu de temps. Encore une fois, ça n'est pas encore Jarvis, hein. Je vais vous expliquer.
Et en plus, c'est pas très cher, il me semble. C'est genre 300$?
C'est vendu actuellement à 200$. La raison pour ça, c'est qu'en fait, il se passe pas grand-chose dessus. C'est principalement un micro, un haut-parleur pour répondre, un petit écran pour envoyer un peu des signaux, faire des petites têtes avec le lapin probablement, et la caméra pour interagir avec le réel, etc. Donc, sur l'appareil en lui-même, il se passe pas grand chose, c'est principalement une interface vers les serveurs de Rabbit qui vont faire tout le traitement un peu lourd et intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais garder ça pour la fin, attendez, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux.
Zut. Retrouver les pinceaux.
Ok. Ils ont commencé la conférence avec le même avis que moi, à savoir, actuellement, on a l'état de l'art, on va dire, pour des assistants avec de l'IA, est plutôt pas ouf. Si, par exemple, actuellement, vous allez sur ChatGPT pour utiliser un plugin d'une compagnie aérienne, il va vous faire des suggestions, ça pour votre prochain vol en Alaska, mais il va pas pouvoir réellement faire la réservation pour vous. Les chatbots, comme ça, en fait, ils sont super forts à comprendre les intentions, mais pas du tout, actuellement, à déclencher des actions. La première tentative qui a été faite il y a quelques mois pour régler ce problème-là, c'est les agents. On en avait un petit peu parlé. Ça a été très hype, notamment dans la communauté open source. Et en gros, le principe, c'est de faire parler entre elles des personas virtuels. c'est un peu un hack d'une certaine manière pour utiliser les capacités conversationnelles des agents sans avoir nous-mêmes à faire la discussion en haut. C'est-à-dire qu'on...
Faire l'intermédiaire.
Exactement. On les laisse parler entre eux. Ça fait des démos assez marrantes, par exemple. Celle-ci que j'ai vue sur Twitter est intéressante. Ça utilise un projet très cool qui s'appelle Crew AI, qui est un des plus sérieux dans ce domaine. Et la personne que vous allez voir a créé une sorte d'équipe virtuelle qui est chargée de générer des posts Instagram pour une start-up qui s'appelle Curio. J'ai découvert ça. C'est une boîte qui fait des jouets avec dedans
for to copy in there are three options of photographs that we can use and we can basically copy and paste these ones on Midjourney. So let me run that real quick and we can see what we get out of
All right, you're going to really love this one. This is a crew of AI agents. That is this.
Ça, c'est un agent qui travaille avec Midjourney.
Exactement. Donc là il présente son système. L'objectif de son équipe, c'est de générer donc des posts Instagram pour une start-up qui existe vraiment et qui s'appelle Curio. Je vais vous montrer le site. Cette boîte fait des jouets pour les enfants avec un LLM à l'intérieur. Donc en gros, c'est une D'accord. peluche. C'est la peluche du futur, finalement. Au lieu de répéter en boucle un truc qui te pète le crâne, t'as juste un vrai LLM à l'intérieur.
C'était sûr que ça allait arriver.
C'était sûr.
On n'y a pas pensé.
Mais c'était évident que ça allait arriver. Et ils ont un prisme intéressant qui est vraiment en mode santé mentale, enlever les écrans de vos enfants et donnez-leur des jouets qui sont pas chiants, mais qui ne sont pas non plus des écrans. Tu vois, il y a un truc intéressant.
Ok.
Et en plus, c'est mignon.
Ah ouais, par contre, c'est super mignon.
La com est très très bien bossée. Et bah, juste en comprenant juste avec le nom de la boîte, ils sont capables de son équipe d'agents avec des outils de scrapping, des outils de recherche Google, etc. Ils vont faire des recherches sur cette boîte-là, sur ses compétiteurs. Tout seul, hein, ils ont pas été instruits pour faire ça. Ils vont scraper leur site web, réfléchir à une strate de com en fonction et rédiger des prompts pour Midjourney pour faire des posts Instagram et générer les descriptions des posts en question. Si vous voulez voir, à la fin, Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Les images, du coup, générées, elles ressemblent à ça.
Ok.
Et la description qu'ils donnent, c'est « libérer la créativité de votre enfant avec Gabo. Dites adieu aux écrans et faites place aux jeux dans le monde réel. Hashtag #je sais pas quoi. Et voici les images. » C'est pas mal.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, il a bien compris le positionnement un peu anti-écran de la start-up. Et voilà, les 8 assistants. Donc, tu sais, il y avait un project manager, ils partent dans des délires un peu dingues. Mais globalement, ça marche. Tu vois, ils font leur discussion entre eux. Ils ont réussi à produire un résultat tout seul qui correspond à la tâche qu'on leur a donnée. Mais ce serait mentir que de dire que c'est une révolution. Genre, comme souvent, la démo est marrante, mais en fait, tu passes aussi beaucoup, beaucoup de temps à débugger ton système. Et pour un truc pas révolutionnaire comme ça, en fait, c'est super long. Ça va être très longtemps, ça génère des milliers de tokens pour arriver à ce résultat.
Ah oui. Et en fait, c'est un coût...
C'est non négligeable. Alors, sauf que là, il tournait en local, donc en fait, ça te coûte que ton électricité. Okay. Mais la preuve que les agents, c'est pas encore au point, c'est que depuis 6 mois qu'ils existent, personne n'a montré vraiment de démo convaincante de fou. Toutes les boîtes ne sont pas comme des folles à implémenter ça partout. Genre...
C'était un peu la folie quand ça a été annoncé. Comme, et en fait, ça...
Comme d'hab. En gros, on attend de voir.
Ouais,
attend de voir. Et surtout, en fait, les agents sont limités par un très gros problème. Les LLM ne savent pas appuyer sur des boutons. je rigole même pas, je suis très sérieux. En fait, quand on se renseigne, c'est un des plus gros problèmes actuels qui empêche qu'on ait un Jarvis. Et c'est loin d'être une question simple à régler en réalité. Je m'explique. Si on a envie que ChatGPT commande donc un billet d'avion, en fait, tel quel, il peut pas le faire comme nous. Il est fait pour comprendre et générer du texte, donc pas pour lire, tu vois, des screenshots et bouger une souris. Et pour cette raison, les agents et les plugins pour ChatGPT qui veulent interagir avec des outils extérieurs, ils doivent passer par des API. Ce sont donc des interfaces officielles prévues par les développeurs de services web pour les programmes informatiques. Donc, par exemple, pour les humains, il y a Twitter Web avec des boutons et des menus. Et pour les programmes, il y a l'API Twitter qui utilise des données textuelles structurées et donc prévisibles par un programme et un LLM. Derrière, c'est évidemment, c'est le même serveur, c'est la même base de données, mais l'interface pour y accéder, c'est pas la même. Même chose sur l'ordi, en fait. On peut activer l'option du dark mode en cliquant dans les paramètres de la machine, mais pour qu'un LLM le fasse, bah lui, il va devoir générer la ligne de commande qui permet de faire l'action. C'est toujours pareil. Et si vous découvrez le concept des API comme ça, vous êtes sûrement très excité parce que vous vous dites... Attends, mais ça veut dire que quasiment tout a une API. Donc, on peut en fait écrire du code qui interagit avec n'importe quoi. Donc, ChatGPT plus API égale Jarvis, en fait. Paf ! C'est de la magie. Sauf qu'en fait...
Il suffirait d'avoir, finalement, la documentation de toutes les API de la Terre.
Exactement.
Et c'est bon.
Et c'est bon.
En fait.
Sauf qu'en fait, bah, la réalité est beaucoup, beaucoup moins rose. Pour trois raisons principales. Déjà, depuis que tout le monde a compris que pour faire des LLM, il suffit de piquer le contenu des plateformes concurrentes, et ben beaucoup de sites comme Reddit ou Twitter ferment leurs API. Ou alors, ils les rendent extrêmement chers. Oui, c'est pour ça.
Ok.
En gros, la valeur maintenant est dans la donnée, et donc tu la protèges.
Donc tu protèges ta donnée.
En enlevant ton API. Tu mets des captchas partout. Bref, tu empêches les robots d'accéder à ton contenu. Deuxièmement, énormément de services n'ont juste pas d'API en fait. Genre les sites de l'État, les messageries instantanées, les sites où il faut faire des paiements en général, etc. Bref, exactement ce qu'on voudrait déléguer à un assistant en fait.
Ah oui, on peut pas faire acheter, enfin mettre dans le panier ou payer le panier.
Mais les codes de la carte.
En API quoi.
Enfin, en fait,
ça dépend des services mais.
Les sites qui n'ont pas d'API et les sites dont tu veux te débarrasser et les filer à un assistant,
ouais.
C'est souvent les mêmes. Et enfin, quand bien même en fait ce serait le cas, pour que votre Jarvis marche, il faudrait commencer par créer un compte développeur sur l'ensemble des sites qu'il pourra utiliser, demander une clé d'API, mettre votre carte bancaire. Donc en fait, pour le truc one shot, genre le site des impôts par exemple, tu vois, dont tu voudrais bien t'en passer. Bah en fait, tu vas juste perdre du temps à setup le système pour qu'il lui parle.
C'est vrai que c'est une fois par an.
Bah exactement, tu vois.
Oui, donc oui.
C'est plus court de le faire. Donc en fait, vous l'avez compris, en attendant l'interface universelle qui n'arrivera honnêtement jamais en fait, il n'y a pas de meilleure solution que d'apprendre au LLM à utiliser des interfaces d'humains. Oui. Juste, il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix.
C'est tellement paradoxal.
Mais oui, c'est absurde.
Genre on a un système informatique, les API, c'est super bien réglé, tous les développeurs utilisent ça, mais les LLM peuvent pas. Quoi.
C'est absurde, mais c'est comme ça. Alors, comment faire ? La première tentative, c'était de donner par exemple le code source de la page web au LLM et de lui demander le nom du bouton sur lequel il voulait cliquer. Et après, on injecte le clic. Bon, spoiler, ça marche pas super bien. La deuxième tentative est déjà plus intéressante. L'idée, c'est d'utiliser les nouvelles capacités de vision des modèles. On fait des modèles qui sont maintenant hybrides, multimodaux. Et donc, on se dit, ils peuvent un peu plus comprendre les interfaces qu'avant déjà, a priori. Je vous montre une démonstration d'un projet qui fait ça le mieux actuellement. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Ça s'appelle Self-Operating Computer. Actuellement, c'est une petite interface graphique comme ça, avec laquelle on discute. Là, on lui demande, est-ce que tu peux faire un truc dans Google Doc ? Donc, tu ouvres Google Doc et écris un poème à propos de l'open source. Là, le modèle, ce qu'il est en train de faire en tâche de fond, c'est de prendre des captures d'écran répétées, de réfléchir à quelle action il va faire. Donc là, par exemple, il a cliqué sur le bouton Chrome. Il a détecté qu'il y avait un input en haut. Il a déplacé la souris.
Donc là,
il y a input du texte dedans. Là, nouveau screenshot. Où est-ce que je dois cliquer ? Ok, il a vu le blank document. Il clique dessus. Il comprend qu'il a une interface d'écriture. Il clique. Il écrit le texte qu'il a généré lui-même.
Ok. Ah voilà. Ouais. C'est, franchement, c'est très stylé. Et en fait, là, il faut comprendre que les souris, c'était pas un humain qui.
Voilà.
On voit pas sur l'écran, mais en gros, c'était automatique.
Tout ça a été fait automatiquement, sans toucher au clavier et à la souris. L'humain juste était spectateur. La seule instruction, c'était ouvre Google Doc et rédige un poème dedans.
Et derrière, ça utilise GPT Vision ou des choses comme ça?
Et alors justement, comment ça marche? Parce que si vous avez déjà essayé de faire ça vous-même...
J'allais te dire que c'est super compliqué déjà.
Exactement. Quand toi, tu veux faire du auto-hotkey, par exemple, ou des, ouais, ou des macros... voilà, tout le monde qui a déjà essayé de faire ça sait que c'est pénible, mais vraiment très pénible. Donc voir ça, ça fait baver. Alors, comment est-ce que ça marche? Effectivement, derrière, ça utilise un modèle multimodal, le plus performant qui existe actuellement, à savoir GPT-4 Vision. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même plus compliqué que prendre une capture d'écran et lui demander une position en XY sur laquelle il faut cliquer avec la souris. Telle quelle, ça ne marche pas. Ces gens ont été obligés de développer des patchs, comme très souvent avec les modèles de langage, tout comme on fait des chain of thought et on demande 10 fois de revenir sur son premier résultat. Là, c'est un peu la même chose. Ils ont dû inventer des systèmes en plusieurs étapes, où ils vont donner une première capture d'écran en demandant qu'est-ce qui se passe à l'écran, quelle est la zone qui est probablement la plus intéressante, est-ce que c'est en haut à gauche, en haut à droite. Après, ils vont découper l'image, lui refournir et lui redemander sur quelle zone est-ce que le bouton se situe, etc. Une sorte de dichotomie, alors en réalité c'est un peu plus intelligent que ça, mais une sorte de dichotomie de l'image pour arriver à la fin péniblement à savoir à quel endroit la souris doit se positionner pour cliquer sur le bouton ou renseigner un champ de texte.
Un peu laborieux.
En gros, c'est laborieux. Mais la raison principale pour ça, c'est quoi? C'est que ce soit avec du code source ou que ce soit avec des captures d'écran, on est en train d'essayer de prendre des modèles de langage pour leur apprendre des interfaces. On est en train de prendre des modèles de multimodaux pour comprendre des images, donc plutôt des photos en général. Et là, on les utilise pour faire des actions. Enfin, en gros, on travestit un peu ce pourquoi ont été faits certains modèles. Et donc, face à cela, il y a pas mal de gens qui proposent des idées alternatives, notamment le Rabbit R1, sur lequel je vais revenir juste après. Un truc assez intéressant qui est sorti récemment, par exemple, c'est un dataset de l'entreprise Hugging Face qui a généré, je ne sais plus combien exactement, il faudrait vérifier, mais des centaines de milliers de captures d'écran, d'interface et du code qui leur est associé. Ce qui est intéressant, c'est que ces données, elles sont synthétiques. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des modèles de langage d'écrire du code. Ouais. Après, ils ont fait une capture d'écran de ce que donnait ce code. Ce qui leur a permis comme ça de générer des données synthétiques en immense quantité. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être l'avenir, en fait, les données synthétiques pour générer des quantités de données dont l'humanité ne dispose pas.
Alors, j'ai à moitié compris le concept de données synthétiques.
Ok, en gros, Hugging Face, ils avaient envie de créer un dataset super grand pour apprendre au modèle c'est quoi le lien entre du code et une interface web.
Ouais.
Comment tu fais ça? Bah, t'as besoin de trouver beaucoup, beaucoup de données, beaucoup d'exemples de code et de l'interface en PNG associé, tu vois, ou en vecteur, peu importe le modèle, enfin le format. Comment tu trouves cette base de données? C'est pas si simple d'avoir un truc vraiment clean, de qualité, qui marche bien.
Déjà, en fait, ce qu'il y a dans les vraies données, c'est que souvent, elles sont pas standardisées. Tu vois, du coup, c'est aussi compliqué de pouvoir... dans les bases de données, ce qui est compliqué aussi, c'est d'arriver à donner du sens un peu à la donnée. Ouais, et puis les gens n'ont pas forcément codé pareil. Enfin, voilà.
Bah c'est ça, genre...
Les gens n'ont pas codé pareil.
Un million
pareil,
de manières de faire la même maquette.
La même, exactement, ouais. Et du coup, ce qu'explique Mickaël, c'est que ce qui est peut-être la next step, en fait, dans l'apprentissage des IA, c'est de pouvoir générer des données donc qui ne sont pas de sites qui existent, si tu veux.
Okay.
Mais c'est des fausses données qui sont générées par des IA pour entraîner des IA.
Tu standardises la donnée d'une manière que toi, tu as envie par une IA.
Tu crées 200 000 exemples hyper qualitatifs d'un site web, par exemple codé avec Tailwind ou des trucs super précis, et le code associé. Et ça pour ceux qui réalisent la valeur que ça a une base de données qualitative, c'est une dinguerie, c'est vraiment fou. Ouais. Donc ça, c'est un premier truc intéressant qui peut laisser présager qu'on ait des améliorations prochaines sur la compréhension des interfaces et le fait que voilà, on ne torde plus des modèles faits pour écrire des poèmes en modèle de compréhension d'interface, quoi. Et donc, ça, c'est un premier truc intéressant. Et la deuxième boîte que j'ai vue qui parle de ça précisément, c'est donc Rabbit. Dans leur conférence, ils expliquent notamment qu'ils sont en train de travailler sur ce qu'ils n'appellent plus un LLM, donc un Large Language Model, mais un LAM, Large Action Model. Et leur idée, c'est de dire, les premiers modèles sont faits pour générer du texte, les seconds seront faits pour agir. Et donc, par définition, intégrer dans leur cerveau, entre guillemets, la notion d'interface, de boîte avec des boutons, des formulaires, des choses comme ça. Quand on y réfléchit, si ça se trouve, si on met toute notre énergie juste à résoudre ça, on pourrait faire mieux. Le truc, c'est que ils ont annoncé ça avec beaucoup de promesses. Et franchement, ça, si ça se produit, ça fait kiffer. Par exemple, ils expliquent que on pourrait apprendre des trucs à notre assistant. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a dit, Jarvis n'est pas prêt. Pour plein de raisons, l'interface, enfin, savoir s'interfacer avec des logiciels très complexes, avoir une gestion de la mémoire aussi qui soit très long terme, etc. Bon, pour plein de raisons, Jarvis n'est pas prêt.
En fait, c'est un problème d'interface, quoi, tout
Exactement.
Simplement.
Exactement. C'est un des problèmes, on va dire. Mais voilà, en gros, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que, en attendant, ce qu'on va faire, c'est au moins permettre d'apprendre très facilement des suites d'actions au modèle. Et donc, avec ce LAM, ce qu'ils ont teasé, c'est un mode apprentissage. Donc, en gros, tu tirais sur ta page web ou sur ton application, tu ferais ta série d'actions, donc tu remplirais une fois tes impôts et c'est tout. C'est tout, t'as plus jamais à le refaire de ta vie parce que ton modèle aurait appris.
Tu le prends par la main une fois, quoi.
Exactement. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez intelligent pour faire tout seul de A à Z, mais il est assez intelligent pour généraliser ton action, même s'il y a une pop-up de cookie qui vient la prochaine fois, il va réussir à la contourner, contrairement à ton script auto-headkey fait main. Et surtout, ça va te prendre 10 minutes de l'enregistrer, donc tu devrais avoir un réel gain de temps. Ça, c'est la promesse qu'ils font, et c'est ce qui intéresse le plus en réalité, parce que leur appareil est sympa, voilà, ils savent faire du beau hardware. Je crois qu'ils faisaient de l'audio avant, ils viennent de...
Ils ont un partenariat avec Teenager Engineering, je crois. Qui font des trucs
très luxueux,
très jolis, luxueux,
sympa. Et donc ça plaît pour d'autres raisons, notamment il y a le micro est désactivé d'un point de vue hardware tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton push to talk. Donc la caméra, pareil, tu peux la cacher physiquement. Donc ils ont vraiment une approche relativement saine de ce qu'ils souhaitent faire avec. Il y a quand même des grosses questions sur qu'est-ce qui va sur leur cloud, qu'est-ce qui reste sur ta machine, etc. Comme d'hab. Mais bon. Mais ce qui intéresse le plus en réalité, c'est vraiment ce mode apprentissage, parce que c'est là que tout se joue, en gros, si on veut un jour obtenir un Jarvis. Et pour terminer, un des trucs que je vais évidemment suivre, c'est un mec qui, sur Twitter, s'est dit « C'est cool votre truc, mais franchement, genre, c'est pas si... sur le papier, c'est pas si compliqué de refaire le même appareil avec que des trucs open source sur un Raspberry Pi, par exemple. Et donc, c'est ce qu'il disait. Tu combines un Mixtral, par exemple, Linux, un Whisper pour faire la transcription. Ouais. Bon, si vous ne connaissez pas tous ces mots, dites-vous que c'est juste toutes les briques de transcription de speech-to-text, de text-to-speech, de modèle local qui permettraient d'avoir l'équivalent sur... Bah, juste un device que vous feriez vous-même à la maison, open source, que vous pourriez modifier. Donc c'est ça qui va être compliqué pour une boîte comme Rabbit. C'est que voilà, la réponse va être très très rapide de la communauté open source.
Même d'autres acteurs.
Oui, d'autres acteurs.
Genre un Microsoft ou un...
Je pense que leur chance de survie, en fait, ce serait typiquement si ils avaient une approche un peu comme la Pebble Watch dont on avait parlé il y a un certain temps, et qui d'entrée de jeu misent tout sur le hardware et disent que ben voilà, faire de l'open source sur le hardware, on sait que ça n'existe pas. C'est super super compliqué.
Ça existe.
Donc voilà. Je crois qu'actuellement, je suis même pas sûr que t'aies un device qui soit entièrement en open source, par exemple, tu vois.
Oh si,
un
quand
device
même.
Hardware.
Mais pas un device très connu, quoi.
Oui voilà, pas un ordi, quoi. Enfin voilà, par exemple. Bref, et moi, je leur donne des chances. Si jamais, d'entrée de jeu, ils disent, nous, on vous file le hardware et vous pouvez l'interfacer avec ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous pouvez avoir une station chez vous genre un Mac Mini ou je sais pas moi une machine fait maison qui sera votre hub. Dessus vous utiliserez vos propres outils open source potentiellement, juste l'appareil que vous aurez toujours sur vous qui discutera avec votre maison, et ben ce sera un Rabbit R1. Ça j'y crois, mais la version uniquement cloud super fermée, je pense que je sais pas si elle a un avenir radieux. Ouais. À voir. Voilà.
Mais peut-être qu'il y a aussi une version en interne, en fait, dans les puissances de calcul vont changer, etc. Et qu'en fait, il n'y aura pas besoin de contacter un ordinateur ou un serveur pour traiter la donnée IA. Alors, je sais que c'est pas tout de suite, mais il y a des choses qui se font et tout. Peut-être qu'en fait, ça sera soit intégré à nos téléphones, soit dans un. En vrai, il est super stylé, leur device. Mais, ouais. mais
c'est pour ça que j'imaginais.
Soit standalone, en gros.
C'est pour ça que j'imaginais. Enfin, oui, en théorie, mais je pense quand même qu'on va atteindre un plafond sur la capacité de certains modèles. Typiquement, mais t'as peut-être raison. Parce que, actuellement, pour avoir un assistant qui fonctionne à peu près, il faut au moins 7 milliards de paramètres. Mmh. Donc, si jamais l'appareil est un peu plus gros, que t'as une bonne batterie, un peu mastoc quand même, parce que ça consomme, hein. Ouais. Dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais je sais pas pourquoi, je crois pas mal à une sorte d'hybride où, ouais, en fait, ta grosse station à ta maison, c'est ta puissance de calcul, et ton appareil sur toi, il est fait pour la batterie et les capteurs, et c'est tout. Ouais. Et il discute avec ta maison. Je sais pas pourquoi, okay, j'y crois pas mal aussi, mais on verra. On fait nos théories et on verra ce qui se passera.
Après, juste pour ajouter à ce que tu disais, par rapport à la difficulté de faire un Jarvis, parce que du coup, effectivement, soit il te faut toutes les API, soit, enfin voilà, c'est super compliqué à faire. Je pense que effectivement, pour le particulier, c'est super dur à faire. Par contre, moi, j'ai exemple au taf d'outils qu'on essaie de faire pour les entreprises, où on essaie de faire des assistants comme ça, un peu Jarvis-like, mais qui sont très orientés pro. Et ça reste quand même super cool. On en est au début, bien sûr, où tu peux connecter comme genre une quarantaine d'applications différentes avec lesquelles tu travailles, genre par exemple tes mails, ton Slack, une base de données potentiellement de ton entreprise et tout ça. Et en fait, il y a quand même ces assistants là qui existent aujourd'hui, qui peuvent compiler un peu toutes les données de ton entreprise et tous les échanges que t'as eu et toutes les archives, tu vois, qui a la connaissance globale de ton entreprise. Et on tend à faire des intelligences comme ça qui peuvent au moins être des assistants dans le monde du pro. Mmh. Et je pense qu'on en est plus proche dans le monde du pro que dans le monde du particulier. C'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas tant que ça, je veux dire, en dehors du monde de l'entreprise. Mais dans le monde des entreprises, ça commence à arriver à grands pas. Donc je pense que ce sera...
Quand tu penses, ça a du sens parce que tous les services que tu as mentionnés ont des API pour le coup.
Ouais.
Et si c'est ton entreprise qui centralise la complexité d'aller se plugger partout, qui fait la tuyauterie en fait.
Ouais.
Et ça a plus de chances d'arriver. Ouais.
Bah, sans vouloir faire de pub.
Si,
sans vouloir faire de pub, mais donc à Amazon, on a Amazon Q, qui est du coup un nouveau service où on essaie de tout connecter. Donc en fait, on te donne la possibilité de connecter tout ça. Ouais. Et en plus de ça, c'est connecté à ton cloud. Du coup, il y a ça.
Question, est-ce que tu as vu, du coup, un moment, une discussion, un échange où tu as été halluciné de cette capacité-là à interconnecter beaucoup d'API, ou alors est-ce qu'on est dans une situation où le problème de l'API est réglé, mais en fait il y en a d'autres qui sont encore assez limitants?
Le problème de l'API est réglé à ce niveau-là. Après, comme moi, je travaille pas au sein d'une entreprise, enfin autre que Amazon, j'ai pas encore vu un exemple concret de connexion de plein de services différents qui pourraient faire en sorte que, bah, du coup, t'as réellement un assistant, qui pourrait te dire plus ou moins n'importe quoi sur les objectifs de l'entreprise, avec qui t'as parlé de ça, qui a eu l'idée de faire ça. J'ai pas encore, si tu veux, vu cet exemple-là, mais je sais que c'est la promesse et que c'est l'objectif. Je suis impatiente de voir des clients.
Ouais.
En fait, c'est parce que c'est nos clients qui les utilisent et qui vont arriver à faire ces exemples-là. J'en ai pas encore vu.
Okay.
Mais ouais.
Parce qu'il est possible que ce soit qu'un des. Enfin, aujourd'hui, j'ai mis le focus sur l'interface, mais c'est probable. Il y a potentiellement des prochains épisodes à faire. On en avait un peu parlé déjà, Mathieu, mais c'est probable qu'il y ait d'autres volets qui soient non résolus pour obtenir Jarvis. Typiquement, j'ai très rapidement mentionné la mémoire, mais un assistant n'est intéressant et bon que si il a une large mémoire et qu'il sait récupérer, comme nous on le fait en fait avec notre cerveau, le bon contexte pour la bonne tâche.
Ouais.
Et il y a des tentatives là-dessus, mais je sais que c'est un des autres champs un peu non résolus. Donc
j'ai un élément de réponse à ça. Ouais. En plus des agents, du coup, on a une techno qui s'appelle les RAG,
ouais.
Donc les Retrieval Augmented Generation, où du coup, si on veut vraiment générer cette capacité de mémoire, il faudrait stocker, si tu veux, dans une base de données externe, tous les échanges que tu as eus, tous les précédentes données, si tu veux, aux connaissances que l'IA devrait avoir pour pouvoir répondre à ta question. Et donc ça, c'est une partie de la réponse, je pense. Et donc les RAG plus les agents, plus ouais. les API connectées avec toutes ces... Ça pourrait être le début de quelque chose.
Ça pourrait.
Comme Jarvis. Mais après...
Mais les RAG, c'est de la génération... Enfin, c'est de récupérer dans le contexte du chat des données pertinentes, des données intéressantes. Typiquement, si vous utilisez Perplexity ou des genres de moteurs de recherche alternatifs, c'est ce qu'il faut en réalité avec de la donnée de qualité qui vient d'Internet. C'est un domaine vachement en recherche, du coup,
ouais.
et dont on n'est pas encore complètement maître. C'est-à-dire
non,
que
c'est sûr, ouais. Ouais, ouais.
Parfois, ça marche super bien pour certaines choses, et parfois, on se rend compte que la tâche est beaucoup trop complexe et c'est pas stuffer, rajouter des trucs dans le contexte qui va fonctionner. Et parfois, on se rend même compte, on dérive un peu, c'est pas grave, ça ne sera pas dans la VOD, mais on se rend même compte que un document qu'on va rajouter dans le contexte fout complètement la merde. Et va, comme ce sont des modèles qui sont super dépendants au moindre token qui les précède,
ouais.
parfois tu vas pourrir ta réponse parce que tu lui as donné des infos qu'il fallait pas. Il y a un truc avec le cerveau. En fait, ce qui est fascinant, c'est que plus on bosse sur ça, plus on découvre ça, plus on réfléchit au cerveau humain, en fait.
Ouais.
Parce que on réalise que nous, on a pas du tout constamment tout ce qu'il y a dans notre cerveau, dans notre mémoire immédiate.
Ouais.
On a une capacité, on a comme des chemins et des connexions, et une capacité à aller sélectionner pile la bonne info, la bonne donnée, la bonne mémoire pour la bonne tâche. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été encore débloqué.
Ouais, c'est des tâches qui sont super complexes. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait, comme tu disais, des chain of thoughts avec des agents qui peuvent, après eux, essayer de retrouver la bonne information dans la donnée. Mais c'est vrai que c'est des... Ouais.
En tout cas, le jour, on y arrive.
Ouais.
Sachez que vous serez les premiers avertis.
Ouais.
Et on vous fera 12 chroniques dessus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.